Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Hypertension artérielle, cause, mode de prévention. Nous en parlons avec Dr Jean-Laurent Takombe, cardiologue à la clinique Galima. Il est déjà en ligne. Dr Jean-Laurent Takombe, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. En RDC, de plus en plus des personnes adultes souffrent de l'hypertension artérielle. D'après les spécialistes, cette maladie se caractérise parfois par de maux de tête, des vertiges et des palpitations au cœur. Quels sont les facteurs de risque d'une hypertension artérielle et comment prévenir cette maladie? Docteur Jean-Laurent Takombe, la première question, qu'est-ce qu'on entend par hypertension artérielle?
Bon, je m'adresse à la population, hypertension artérielle. Dans l'organisme, nous avons le cœur.
Oui.
Et le cœur doit chasser ou envoyer le sang à travers l'organisme et ce sang là passe dans les artères. Donc l'hypertension, c'est ce qui se passe au niveau des artères. L'obstacle ou la résistance que nous avons au niveau des artères, c'est que nous appelons hypertension.
De les artères, les artères, c'est, on peut désigner ça par des vaisseaux, des tuyaux qui conduisent les sons du cœur vers les organes?
Oui, c'est l'obstacle. Ce n'est pas le tuyau, ce n'est pas les artères en elles-mêmes.
Oui.
C'est l'obstacle, c'est la résistance que nous avons au niveau de ces artères qui doivent faire couler le sang.
Tout à
c'est
fait.
C'est ça qui constitue, il y a une montée de tension et qui handicape à ce que ce sang puisse aller servir les organes périphériques.
Oui.
Donc, le problème se situe à ce niveau-là. Il y a des valeurs de pression qui ne doivent pas être dépassées. Quand ces valeurs sont élevées, nous parlons d'hypertension artérielle. Donc, il y a des valeurs suivant les âges. Donc, quand nous avons des chiffres tensionnels supérieurs à 140 sur 80 mm de mercure, nous considérons que c'est une hypertension artérielle. Mais c'est supposé qu'avant de prendre ces chiffres tensionnels, on a d'abord demandé au malade de se reposer. On a détendu le malade 15-20 minutes et puis on va prendre ces chiffres tensionnels. Ces chiffres tensionnels sont prélevés aussi bien en position assise qu'en position couchée. Et le médecin trouve le juste milieu pour dire, voilà, ici les chiffres sont élevés et voilà, nous pouvons considérer ça comme une hypertension artérielle.
Voilà, alors quelles sont les causes ou les facteurs de risque de l'hypertension artérielle?
Bon, l'hypertension artérielle, certainement que beaucoup d'entre vous, en allant dans des hôpitaux, le médecin vous dise qu'il y a une hypertension artérielle secondaire. Mais cette hypertension artérielle secondaire, on la retrouve beaucoup plus chez les jeunes, le plus jeune, hein, de problèmes au niveau rénal, notamment une obstruction de l'artère, tout ça, ça peut nous donner une hypertension artérielle secondaire. Il y a l'usage de certaines drogues, de certains médicaments abusifs, de façon abusive, qui peuvent nous amener ça. Et là, nous parlons d'une hypertension secondaire. Mais dans la plupart des cas, et surtout dans notre milieu, on peut rechercher les causes qui ont amené à l'hypertension, on ne trouve pas cette cause. Et c'est pour cela que nous parlons de l'hypertension artérielle essentielle. Alors, l'hypertension artérielle essentielle, hypertension artérielle secondaire, nous avons les symptômes, comme vous venez de le dire précédemment, notamment au niveau, vous avez des vertiges, vous avez des maux de tête, vous avez des bourdonnements d'oreilles, vous pouvez avoir des visions des étincelles ou de mouches volantes, vous pouvez avoir des troubles de sommeil, vous pouvez avoir également un peu de sang qui sort par les nez, que nous appelons épisaxis. Ce sont des symptômes ou des signes qui peuvent vous dire que les chiffres tensionnels sont élevés, il y a une hypertension artérielle.
Mais
il y a des malades qui n'ont pas, ou des gens qui n'ont même pas un seul symptôme parmi ceux que moi je venais de citer précédemment. Il n'y en a pas. Ils sont asymptomatiques. Donc faisons attention, il y a des malades avec symptômes et les malades asymptomatiques. Et ce sont les malades asymptomatiques que nous considérons comme étant de mauvais malades, parce qu'eux ne viennent à l'hôpital que quand il y aura des complications.
Et docteur, ces malades qui ne présentent pas des symptômes, on les retrouve autant pour l'hypertension essentielle que secondaire?
Oui, on peut retrouver de part et d'autre. Et de toute façon, je peux vous dire que l'hypertension artérielle essentielle occupe vraiment un pourcentage très élevé dans notre milieu. Donc, on a les mêmes symptômes, tout comme on ne peut pas les avoir.
Est-ce que le risque sont les mêmes autant pour les hommes que les femmes?
Les risques sont les mêmes autant pour les hommes. C'est vrai qu'on vous dira toujours que la femme, dès qu'elle n'a pas encore atteint la ménopause, elle est un peu protégée par certaines maladies cardiovasculaires. Mais quand elle atteint la ménopause, elle fait des maladies cardiovasculaires identiques à son collègue homme. Mais pour ce qui est de l'hypertension,
oui,
il y a des facteurs qui favorisent à voir l'hypertension. Même si nous ne connaissons pas comment, parce que nous tous les hommes de science, nous sommes toujours dans les discussions pour savoir comment. Il y a des facteurs qui favorisent. Et par ces facteurs-là, il y a ce que nous appelons les facteurs de risque cardiovasculaire.
Oui.
Dont notamment le sédentarisme, l'obésité. Oh, vous avez une charge pondérale considérable.
Une charge pondérale, c'est-à-dire?
Si vous avez un poids, admettons que vous ayez, je ne sais pas, 30 ans et que vous ne mesurez que 1m50,
oui,
hein, et entre-temps, vous pesez plus de 85 kilos. Donc, c'est une surcharge de poids. Donc, ces facteurs-là, une obésité, une surcharge de poids, peut favoriser à l'hypertension. L'usage de tabac, l'éthylisme important, et le stress intense, ou quelqu'un qui a beaucoup de graisse et qui n'arrive pas à maîtriser ou à régulariser ses graisses, il peut arriver à nous faire l'hypertension. Donc, tenons compte qu'il y a des facteurs de risque qui peuvent favoriser l'hypertension, même si ce ne sont pas à eux-mêmes les facteurs qui déclenchent l'hypertension, mais quand on remarque, quand on analyse, ils nous amènent à l'hypertension artérielle.
Voilà, hypertension artérielle, cause mode de prévention. Nous en parlons avec le docteur Jean-Laurent Takombi, cardiologue à la clinique Gallimard. Vous avez des réactions, des préoccupations, appelez-nous déjà au 081-890-63-94. Nous avons déjà un auditeur en ligne, c'est Jean-Cy Kalonda. Il nous appelle de Manono, dans la province du Katanga. Jean-Cy, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous écoute, Jean-Cy.
Oui, ça va, merci d'avoir m'accordé la parole. J'ai des questions à vous poser à notre invité. Si une personne est trappée à ces maladies, quelles sont les aliments qu'il peut manger? La deuxième, comment connaître qu'un homme est trappé à ces maladies? Quels effets il va connaître? Alors, pour augmenter, pour finir, je demande à notre invité de voir notre ministre de la Santé pour descendre au village, pour voir, parce qu'au village, il y a des personnes qui mangent, passent partout, qui mangent, qui ne connaissent pas qu'on est trappé de cette maladie, mais il est en train de mourir comme des bêtes. C'est moi, je voulais dire, j'attends la réponse.
Merci, Jean-Cy. Docteur Jean-Laurent Takombi.
Oui, de toute façon, pour qu'on sache qu'on est hypertendu, il faudra faire mesurer la tension artérielle. Vous allez dans le dispensaire du coin, ou du moins vous avez un appareil de mesure que vous pouvez prélever à domicile, vous allez vous retrouver avec des chiffres tensionnels élevés. Et là, nous avons l'obligation d'éduquer la population. Même si on n'est pas hypertendu, il est très important, il faudra faire mesurer ces chiffres tensionnels. Ça, c'est de un. De deux, par rapport à l'alimentation, je crois qu'il faudra modérer. Il faut essayer d'être beaucoup plus végétarien que carnivore. Et il faudra réduire sensiblement le sel dans l'alimentation.
Donc, ne pas être carnivore, c'est-à-dire manger moins de viande, plus manger peut-être plus de tout ce qui est végétal.
Des légumes, des fruits.
Oui.
Donc, vous êtes beaucoup plus végétarien, vous évitez les graisses, surtout d'origine animale.
Oui.
Et ensuite, il me demande de contacter l'autorité du ministère pour que ça aille à l'intérieur. Bon, ça, l'autorité, je crois que l'autorité est en train de nous suivre. Et je pense bien que à l'intérieur, là où il se trouve à Manono, il y a des médecins, il y a des dispensaires. Et ces gens-là peuvent, ne fût-ce que vous déclarer hypertendu. On ne déclare pas un malade hypertendu quand il arrive. La première fois, vous trouvez des chiffres tensionnels élevés et vous dites que non, vous êtes hypertendu. Il faut rappeler le malade une deuxième fois, une troisième fois. Et si vous remarquez que les chiffres tensionnels restent élevés, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez dire non, vous êtes hypertendu.
Voilà, docteur, pour ces malades qui souffrent, vous avez dit qu'ils ont l'hypertension, mais asymptomatique, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas des signes, donc il est bon pour ces catégories de malades de se faire de temps en temps prendre la tension.
Non, ce n'est pas seulement pour cette catégorie de malades, c'est pour tout le monde, et surtout pour des gens qui viennent des familles où il y a une notion d'hypertension. Vous êtes dans une famille où les parents, tout ça, un frère, une sœur est hypertendu. Vous êtes obligé de temps en temps de faire vérifier votre tension parce que vous avez toujours un petit risque là, qui est là, qui vous amènera à faire l'hypertension. Et surtout dans certaines situations où vous avez quelques malaises que vous n'arrivez pas à expliquer, et où vous avez pris de façon considérable du poids, et tous ces éléments où vous traversez une période très difficile dans la vie, un stress, un événement malheureux, tout ça, c'est ce moment-là, il faut faire vérifier les chiffres tensionnels parce que c'est le moment où le plus on voit les chiffres monter. Donc, que ce soit des gens qui sont asymptomatiques, que ce soit dès tout sujet adulte de surcroît, doit faire mesurer sa tension assez souvent pour voir s'il n'y a pas une augmentation des chiffres tensionnels.
Voilà, hypertension artérielle, cause mode de prévention. Nous en parlons avec le docteur Jean-Laurent Takombe, cardiologue à la clinique Ngalima. Vous avez des réactions, des préoccupations, même des témoignages. Appelez-nous au 081 890 63 94 ou également faites-nous parvenir un SMS au 081 711 50 01. Vous avez également la possibilité de réagir sur la page Facebook Okapi Service.
Okapi.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Nous avons déjà un auditeur en ligne, c'est Herman Kaouma, il nous appelle de Cabinda, dans le Kassai oriental. Herman, bonjour.
Bonjour, bonjour à Radio Okapi, bonjour Marcel, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute, Herman.
Vous avez une question à poser à l'invité. En réalité, quand l'organisme travaille, il y a des régulateurs. Donc, l'hypothalamus joue aussi un rôle important dans ces régulateurs, dans les centres de régulation. Mais quand la personne souffre déjà de l'hypertension, quand on lui donne des médicaments, on traite les artères ou soit on traite l'hypothalamus. C'est un peu ma question que j'avais.
Merci, Irma. Docteur Jean-Laurent Takombe.
Oui, je crois, vous posez la question celle de savoir s'il y a un système d'autorégulation au niveau de l'organisme. Oui, il y a un système d'autorégulation, mais ce système est dépassé dans la plupart des cas. Alors, on vous dit que le cœur doit pomper le sang, mais le cœur trouve un obstacle pour que le sang s'écoule dans les artères, parce qu'il y a une forte pression là-bas. Et vous savez que les différents organes, notamment les reins, notamment le cerveau, tout ça, tous ces organes attendent le sang qui vient du cœur. Et voilà que ce sang ne s'est pas arrivé correctement parce qu'il y a une certaine pression dans les artères. Donc, il faudra à tout prix, parce que la régulation a été dépassée, il faudra à tout prix qu'on agisse par d'autres moyens pour essayer d'ouvrir cette tuyauterie. Comme ça, le sang peut s'écouler assez facilement pour atteindre les organes à distance et ainsi la vie va continuer sans trop de dégâts. Donc réellement, il y a un système d'autorégulation, mais ce système est dépassé.
Ah, Voilà. Alors, dites-nous, docteur Jean-Laurent Takombe, quels sont les risques liés à une hypertension artérielle qui est chronique, c'est-à-dire que tout le temps, la personne a une tension au-delà de la fourchette normale?
Bon, cela, vous revenez à poser la question, celle de savoir quelles sont les complications de l'hypertension artérielle qui n'est pas contrôlée. Et je suis content que vous puissiez poser cette question. Parmi ces complications, il y a des complications que nous disons des complications aiguës. Quelqu'un peut se retrouver en pleine nuit, il ne sait plus respirer, parce qu'il y a eu montée de chiffres tensionnels et les échanges gazeux ne se font plus correctement au niveau du poumon vers le cœur. Et vous nous faites ce que nous appelons un édème aigu du poumon. Et quelquefois, c'est très difficile même d'arriver avec le malade dans le centre le plus proche, parce que le malade suffoque. Il est étranglé, il ne sait pas respirer. Voilà une des complications. Mais il y a également d'autres complications, telles qu'une dissection aortique, c'est-à-dire qu'il y a une déchirure de l'aorte. Donc la voie qui conduit le sang vers les organes, il y a une déchirure et le sang se retrouve en dehors de son milieu normal. Donc je venais, personnellement, je garde un très mauvais souvenir parce qu'il n'y a même pas une semaine, on venait de perdre un cas qui est arrivé à peine à notre clinique et on n'a pas pu le sauver parce qu'il était dans ce tableau de dissection aortique et on ne pouvait rien faire parce que la situation était très avancée. Il est mort. Mais il y a des complications qui peuvent survenir un peu plus tardivement, notamment au niveau cardiaque. Vous avez ce que nous appelons l'insuffisance cardiaque. Vous vous rendez compte, vous habitez, je prends l'exemple de Bandalungwa, où je m'imagine que les maisons ont des chambres à coucher au-dessus. Un malade qui suit sa télé au salon et qui doit aller atteindre la chambre à coucher, juste cette montée-là, il est incapable, il vous dit qu'il est essoufflé, il ne s'en peut plus, il a des palpitations. C'est toujours les complications de l'hypertension au niveau cardiaque. Mais il y a aussi des complications au niveau des reins, l'insuffisance rénale qui va s'en suivre. Vous vous rendez compte, quand nous sommes à un stade très avancé, on vous dit que les reins ne travaillent plus. Et les déchets de l'organisme doivent être rejetés. Et si les reins ne travaillent plus, ces déchets ne seront plus éliminés. Alors, vous vous rendez compte, si on doit vous amener maintenant pour vous mettre sous rein artificiel qu'on appelle dialyse, ça coûte énormément cher. Et quand vous êtes à ce stade-là, on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Donc, il faut éviter qu'on arrive à ce stade. Et sans oublier la plus grande complication que nous avons actuellement, que tout le monde en parle, ce sont les AVC, accident vasculaire cérébral. Hein, cette personne qui vous arrive avec une paralysie ou cette personne qui ne sait pas parler, qui fait tout dans son lit, il ne fait rien, il ne contrôle pas. Voilà, c'est une complication redoutable. Et moi, je dois vraiment profiter de cette occasion pour crier très fort, pour dire non, ça ne va pas. Les gens doivent prendre les choses au sérieux parce qu'il y a de plus en plus de complications ici chez nous et beaucoup plus dans la ville de Kinshasa. Est-ce que ça revient de la faute? Mais nous, les hommes de science, nous sommes en train de rechercher pour savoir, y a-t-il d'autres facteurs qui ont favorisé, parce qu'il y a 10 ans, nous n'avons pas ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, il faut à tout prix soigner correctement l'hypertension si on ne veut pas avoir un AVC. Parce que quand on est arrivé à ce stade d'un AVC, une paralysie ou une hémiplégie, tout ce que vous pouvez raconter, bon, c'est vrai, c'est facile de dire non, on va aller en Inde, on va aller en Afrique du Sud, mais je regrette. Même là, ils ne feront rien. Donc, la meilleure façon ou le meilleur traitement, c'est d'éviter d'en arriver à ce stade.
Voilà, docteur Jean-Laurent Takombe, on va prendre 2 auditeurs qui sont en ligne. Il y a Kafui Teleka depuis Kolwezi dans la province du Katanga et également Lori Lola à Kisangani dans la province orientale. Après ceci.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala.
Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radio-Okapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Laurie Lola est à Kisangani, dans la province orientale. Laurie, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Et bonjour à notre
invité. On vous écoute, Laurie.
Ok. Je voulais simplement dire que moi, c'est Laurie Lola. Je suis étudiant à la faculté des médecins. En plus, je dirige aussi une synergie des étudiants pour la sensibilisation de la population aux problèmes liés à la santé. On avait déjà eu à beaucoup discuter avec les gens sur l'hypertension artérielle, à tel point que on a même reçu des gens à l'hôpital avec comme complication AVC. On leur avait dit que l'hypertension ne peut pas se guérir avec des médicaments spécifiques, donc provenant des traduits professionnels, c'est ce que je voulais dire. Mais après la guérison, la personne ne veut pas suivre les régimes des traduits praticiens. Bien pour lui tromper, il commence à prendre des bidouilles de médicaments, à tel point que jusqu'à présent, même les régimes, la personne ne veut plus suivre. On a essayé d'intervenir, la personne a refusé de nous écouter. Maintenant, je voulais demander à l'invité, qu'est-ce qu'il peut dire au moins à ces gens-là qui continuent toujours de traiter l'hypertension par des médicaments traditionnels. Parce que moi, je sais que l'hypertension, c'est une maladie chronique qui ne peut pas être guérie par des maladies traditionnelles. En plus, quelle stratégie adopter pour que les gens, normalement, adhèrent au régime alimentaire et à l'hygiène de vie? Je dis et je vous remercie.
Merci Laurie Lola, vous intervenez depuis Kisangani dans la province orientale. On va accueillir Kafuiteleka qui est à Kolwezi dans le Katanga. Kafuiteleka, bonjour. Bonjour Kafuiteleka.
Bonjour la radio Okapi.
On vous écoute.
Bonjour, je suis à l'écoute. Bonjour la radio Okapi et à notre invité.
Allez-y,
ma première question est la celle-ci.
Allez-y.
À quel âge cette maladie peut attraper à une personne?
Baissez la radio à côté de vous. Baissez le volume de la radio à côté de vous. Vous avez une radio à côté de vous. Vous voulez bien baisser le volume?
Ok, je peux quitter.
Bon. Écoutez, Kafuiteleka, suivez avec votre téléphone, ne suivez pas votre radio, vous pouvez même la fermer et vous suivez avec votre téléphone. C'est bon?
Écoutez maintenant.
Allez-y.
Et quel mode aussi de prévention que nous pouvons utiliser pour éviter cette maladie?
Non, répétez d'abord, la première question était laquelle?
Bon, je voulais juste vous dire qu'à quel âge cette maladie peut attraper à une personne? À quel âge? Est-ce qu'elle peut attraper à une personne qui même à l'âge inférieur à 18 ans.
Voilà.
La deuxième question, quel mode de prévention que nous pouvons utiliser pour éviter cette maladie?
Merci Kafuiteleka. Docteur Jean-Laurent Atakombi.
Oui, pour l'auditeur de Kisangani, qui malheureusement a un cas de patient qui ne veut pas suivre les conseils, qu'est-ce que tu peux faire? Toi, tu prodigues des conseils, mais si la personne ne veut pas suivre, tu ne sauras rien faire. Il faudra répéter, et très fort, pour signaler que l'hypertension artérielle, on ne guérit pas de son hypertension artérielle. On l'a pour toute sa vie. Si on va à l'hôpital, c'est pour qu'on comprenne, qu'on vous donne des procédés qu'il faudra suivre pour baisser vos chiffres tensionnels et vous éviter des complications. Donc c'est une maladie, il faudra le répéter, c'est une maladie qui, quand vous la soignez pour toute la vie. Maintenant, quand il s'agit des soins, ça peut être par des mesures, comme l'a dit l'auditeur là, des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire votre mode de vie, votre alimentation et toutes les précautions là, ça, c'est On peut arriver qu'à un moment donné, le médecin a déjà mis des médicaments et le malade respecte tellement les conseils prodigués que les chiffres tensionnels sont normalisés et le médecin peut se dire non, nous allons tenter maintenant d'écarter un peu momentanément les médicaments et nous allons voir si rien qu'avec les mesures hygiéno-diététiques, les chiffres restent dans les limites acceptables. Mais la meilleure façon de ne pas arrêter, il ne faut pas arrêter le médicament, sauf si vous avez vu votre médecin qui vous connaît suffisamment bien. Ce n'est pas seulement le médecin vous a reçu une seule fois et puis non. C'est un médecin qui est avec vous depuis peut-être une longue période, qui a déjà une idée, vous connaît que vous êtes discipliné, tout ça. Celui-là peut oser vous dire non, arrêtons maintenant, continuez avec des mesures non médicamenteuses. Bon, là, vous ne savez rien faire, vous ne pouvez que prodiguer des conseils, vous n'allez pas courir derrière chaque malade pour dire non, prenez. Ça, ce n'est pas possible. Alors, au deuxième auditeur qui appelle, je ne sais pas, de Colésie, bon, lui veut savoir l'âge.
À quel âge on peut voir apparaître
l'hypertension?
À tout âge.
2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et beaucoup plus, parce que je vous ai parlé de l'hypertension secondaire. L'hypertension secondaire, vraiment, on la retrouve beaucoup plus chez les tout-petits. Mais à tout âge de la vie, on peut avoir l'hypertension. Alors, mot de
prévention, comment prévenir l'hypertension?
Comment prévenir l'hypertension? Nous l'avons souligné au départ, au début de l'émission, pour dire, non, il faut essayer de maîtriser ou d'écarter les facteurs de risque. Hein, qui peuvent entretenir l'hypertension parce qu'elle est essentielle. Donc, il y a certains facteurs sur lesquels on peut jouer. Mais il y a d'autres, on ne peut pas jouer. Notamment quand on vous dit des facteurs de risque, genre, vous êtes d'une famille où il y a des hypertendus, vous avez des parents. Ça, vous ne savez pas changer. Mais vous ferez un peu plus attention que votre collègue ou votre ami qui ne vient pas d'une famille à hypertension. Alors, vous devez éviter l'obésité. Vous devez modérer le stress. Le stress, dans la vie, on aura toujours un stress. Mais il y a des stress qui peuvent endommager l'organisme. Ce stress-là, vous devez éviter. Et c'est peut-être en faisant le sport. En faisant le sport, vous pouvez réduire ce stress-là. Hein? Il faut réduire l'usage de l'alcool. Bon, parce qu'on va vous dire, beaucoup de malades posent la question, est-ce que nous allons prendre l'alcool, est-ce que nous, tout ça. C'est vrai, je ne peux pas, à l'occasion de cette émission, dire à tout le monde, prenez de l'alcool. Mais l'alcool n'est pas contre-indiqué de façon absolue. Ce sont les doses d'alcool que nous devons voir maintenant. Et localement, à Kinshasa, c'est la bière que nous avons sur le marché. Bon, si vous avez vos 2 verres bambou, que vous prenez loin de la prise de médicaments, on ne peut pas vous en vouloir. Ou si vous prenez votre verre de vin au moment de repas, ça, on ne peut pas vous en vouloir.
Mais c'est non, c'est-à-dire consommer de l'alcool avec modération, c'est bien cela.
Ah oui, mais cette modération, c'est là où le problème se pose. Comment les gens prennent la modération? C'est comme ça que je mets de réserve au départ, oui. Parce qu'on dira, le médecin, le cardiologue a parlé qu'il faut prendre l'alcool et tout le monde se met dans l'alcool. Non, moi je relativise. Prenez-en, mais à des quantités moindres. Vous êtes dans une cérémonie où on vous présente un verre de bière parce que bon, votre fille est baptisée ou je ne sais pas, anniversaire de naissance. Et un verre de bière, vous pouvez prendre. Mais éloignez ça, éloignez la prise d'alcool avec la prise de médicaments. Prenez au moins 3 heures d'intervalle entre la prise d'alcool et la prise de médicaments.
Voilà, mademoiselle Adrienne Amouye, je nous appelle de Lubumbashi dans le Katanga, Guy Lusame à Guimena, dans la province de l'Équateur. On commence avec mademoiselle Adrienne. Bonjour, mademoiselle Adrienne.
Bonjour, Marcel Ngombombala. Bonjour, le docteur Jean-Laurent.
Vous avez la parole, mademoiselle.
Oui, moi, j'aimerais juste demander au docteur Jean-Laurent quelle stratégie il faudra appliquer pour lutter contre cette maladie. Merci.
Merci, mademoiselle Adrienne. Guy Lusame, vous êtes à Guimena, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Ah oui, ma première préoccupation est par rapport à un médecin qui peut nous expliquer comment beaucoup des obèses font souvent l'hypertension.
Merci.
Et la seconde,
oui, allez-y.
Et par rapport au mécanisme de l'hémiplégie par rapport à l'hypertension, c'est comment?
Merci beaucoup, Guy Lusame. Docteur Jean-Laurent Takombi.
Oui, les stratégies pour mademoiselle Adrienne de Lubumbashi pour lutter, mais c'est de suivre les conseils. Les conseils que nous venons de prodiguer en disant écartez les facteurs de risque. Vous n'abusez pas dans votre alimentation, que ce ne soit pas une alimentation salée ou très salée. Et ça, c'est déjà même la prévention primaire au niveau de la famille. Si je peux vous donner quelque chose qui je me rappelle toujours, et ça me, à l'époque où j'étais en formation à l'étranger, mes collègues, on avait l'habitude de prendre du café ou je ne sais pas, du thé. J'étais le seul à mettre du sucre dans le thé ou je ne sais pas, dans le café. Tous les autres me regardaient, bon, ils se disaient peut-être qu'ils viennent d'un pays du tiers-monde où il n'y a pas du sucre, c'est pour cela qu'ils mettent ça. Mais non, c'est parce qu'ils étaient déjà habitués dans leur famille que le sucre, quand on en abuse, ça nous pose des problèmes. Le sel, quand tout ça. Quand on vous invite quelque part, on vous donne un repas, vous mangez, c'est vraiment fade. Mais les autres mangent avec appétit parce qu'ils étaient habitués. Donc, il y a une éducation que nous pouvons, déjà au niveau de famille, pour que notre alimentation soit respectée, soit moins salée et soit moins sucrée. Et comme je l'ai dit, éviter beaucoup plus de graisses d'origine animale. Donc, si nous commençons avec la prévention primaire, bon, je crois que nous pouvons arriver à réduire les cas d'hypertension dans nos familles. Et même si l'hypertension est là, rien qu'en respectant ces mesures-là, nous pouvons éviter d'avoir des complications. Voilà, mademoiselle Adrienne. Mais pour notre ami de l'Équateur qui veut savoir comment l'obésité peut entraîner. Mais vous savez, quand vous avez une surcharge de poids, c'est un travail supplémentaire que vous donnez à votre cœur. Et ce cœur-là, vous êtes obèse, c'est parce que vous avez aussi des graisses. Si vous êtes en Bandaka et que vous voyez la tuyauterie de la régie des eaux, je crois une tuyauterie qui est vieille, vous allez voir qu'à l'intérieur, si on vous montre, c'est un peu rouillé. Donc, la lumière, le calibre est même de moitié réduit. Donc, cela favorise à ce que les chiffres tensionnels soient élevés parce qu'il y a une forte pression dans cette tuyauterie-là. Donc, l'obésité entretient l'hypertension. Il faudra combattre l'obésité. Le mécanisme d'AVC, de tout ça. Alors, vous savez, prenez le cerveau, parce que l'AVC, c'est quelque chose, c'est une maladie qui se passe, ce sont des complications qui se passent au niveau du cerveau. Prenez le cerveau comme étant un gouvernement. Le gouvernement, il a plusieurs ministères. Vous avez le ministère du plan, ministère des travaux publics, ministère de ceci, etc. Voilà. Il suffit qu'il y ait des dégâts qui intéressent le ministère des travaux publics. Tout ce qui découle de ce ministère aura des problèmes. Donc, au niveau du cerveau, il y a une zone qui s'occupe de la motricité, des mouvements de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire du bras, de la jambe. Si cette zone-là a été endommagée, vous allez voir que vous n'allez pas bouger la jambe ou je ne sais pas le pied. Si c'est la zone qui s'occupe du langage ou le ministère qui s'occupe du langage, si ce ministère-là est endommagé parce qu'il y a eu montée des chiffres tensionnels, les vaisseaux ont pété et le sang n'arrive pas correctement dans cette zone-là. Et donc, tout ce qui ressort, ce qui relève de cette zone, nous aurons des dégâts et la personne ne va pas parler. Donc, le mécanisme dépend de la localisation des dégâts, la lésion, à quelle zone il y a eu des dégâts, et ça va correspondre à des plaintes au niveau périphérique.
Voilà, docteur Jean-Laurent Tarcombe, nous avons beaucoup, beaucoup de réactions. On va découvrir ensemble celles qui nous sont parvenues par SMS, et même sur la page Facebook Okapi Service. Il y a Emilia Lubumbashi qui nous écrit ceci. Moi, je prends un médicament contre l'hypertension depuis 6 ans. N'y a-t-il pas risque d'intoxication un jour où ces médicaments ne vont pas abîmer le rein? Rapidement, docteur, puisqu'on a plus assez de temps. Oui.
Il n'y a pas, qu'on ne puisse pas vous convaincre d'arrêter le médicament. Il faut continuer à prendre les médicaments. Mais vous êtes obligé de revoir votre médecin assez régulièrement pour qu'il puisse faire des contrôles. Parce que tout ce que nous prenons, il subit des transformations dans notre organisme au niveau du foie, ils sont éliminés au niveau des reins. Donc, il faut que le médecin sache que non, les reins fonctionnent normalement, le foie n'a pas de problème, donc il faut continuer avec les médicaments.
Voilà, il y a cette question, docteur Jean-Laurent Tarcombe, lorsqu'on fait l'hypertension le jour de l'accouchement, est-ce que ça peut s'installer?
Bon, il y a l'hypertension que nous appelons l'hypertension de la femme enceinte, une hypertension gravidique. Bon, les médecins sont là, les gynécologues obstétriciens sont là pour combattre cette hypertension, parce que si on ne la combat pas, ça peut être le décès de la mère, ça peut être le décès du fœtus également. Hein. Donc, l'hypertension peut arriver pendant la grossesse, surtout au terme de la grossesse, mais quand on a accouché, on aura tendance à voir ces chiffres tensionnels diminuer.
Voilà, il y a également Adam Akindou qui nous écrit ceci. Je suis hypertendu. Est-ce que je peux prendre, boire combien de bouteilles de bière par jour?
Oui, notre ami de Kindo, Dr Takombe, n'a pas fait la publicité pour que les gens, les hypertendus, puissent prendre de l'alcool, puissent abuser de l'alcool. Dr Takombe a dit ceci. Lors d'une cérémonie, ou vous-même si vous êtes à la maison et que vous devez manger, vous avez besoin de prendre, parce qu'il fait très chaud, vous avez besoin de prendre deux verres de bière, vous pouvez prendre. Hein? Ce n'est pas parce que vous êtes hypertendu que vous n'avez plus la vie comme tout le monde. Vous devez seulement savoir que vous avez pris votre médicament, mais vous devez prendre votre médicament, mais éloigner l'alcool, la prise de l'alcool avec la prise de médicaments, parce que ça ne va pas de pair. L'un peut détruire l'autre ou aggraver ou potentialiser l'effet de l'autre.
Voilà, on va prendre rapidement deux auditeurs en ligne, Augustin Bassoulé et Aïsiro dans la province orientale, et Jeans Vingirabwa qui s'engagne toujours dans la province orientale. Augustin Bassoulé, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
Augustin, on n'a plus assez de temps, allez-y rapidement, de manière concise. C'est quoi votre question?
Ok, ça va. J'avais des préoccupations à donner à notre invité.
Oui.
La première, c'est de savoir, quand quelqu'un a fait de cette hypertension, quelles sont les précautions qu'on doit prendre au préalable, ou bien quels sont les signes qu'on peut voir.
D'accord.
Alors, deuxième préoccupation, de savoir que mon papa, il souffre de cette hypertension.
Merci.
Alors, je voulais savoir si cette maladie est héréditaire.
Merci. Voilà, merci, Augustin. Jeans, vous êtes à Kisangani, tout dans la province orientale. Bonjour.
Oui, bonjour.
Allez-y rapidement, c'est quoi votre question?
Oui, j'ai quatre questions à poser au docteur.
Allez-y rapidement, on n'a plus assez de temps.
Un enfant peut être atteint de l'hypertension artérielle. Ça, c'est la première question.
Oui.
Et la deuxième question, quelle est la cause favorisant de l'hypertension artérielle chez l'enfant?
Oui.
Et la troisième question, quel est l'appareil peut-on détecter la tension artérielle chez la femme? Parce que chez nous ici à la province de Ratan, je n'ai jamais vu la tensiomètre pédiatrique partout ici à Kisangani, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut détecter la tension artérielle chez un enfant.
Voilà, merci.
Et la quatrième question est la suivante. Quelle est la valeur normale de la tension artérielle chez l'enfant?
Oui, voilà, merci Jeans. Docteur Jean aura beaucoup de questions. Comment vous pouvez répondre à tous ces auditeurs?
Bon, je crois que les précautions pour l'hypertension, nous en avions évoqué longuement.
Oui.
Hein, c'est suivre les conseils que nous avons dit et essayer de minimiser les facteurs de risque. Bon, vous avez votre papa Isiro qui est hypertendu. Est-ce que vous avez le risque de faire l'hypertension? Bon, l'hypertension, nous ne pouvons pas dire que c'est une maladie héréditaire. Ce n'est pas ça. Mais nous avons vu qu'il y a des familles à hypertension. C'est pour cela que je vous ai dit, quand les parents sont hypertendus, faites aussi attention. Il n'est pas dit que vous devez nécessairement faire l'hypertension. Donc, c'est une maladie qu'on peut retrouver dans certaines familles sans nécessairement qu'elle soit héréditaire.
L'appareil pour mesurer l'hypertension?
L'appareil pour bonbon, c'est question de... Vous êtes dans une institution, il y a des médecins, ils savent qu'il y a des appareils pour mesurer, il y a des tensiomètres pédiatriques. C'est question de demander à l'autorité. L'autorité peut s'approvisionner, peut commander et vous aurez ça. Donc, ce n'est pas un problème. Y a-t-il des facteurs favorisants chez l'enfant? Ben, voilà, facteurs favorisants, je vous ai dit que l'hypertension secondaire, un problème au niveau rénal, tout ça... nous donner une hypertension, et ça on la retrouve beaucoup plus chez l'enfant. Et quand on opère, et ça c'est l'avantage, parce que c'est une hypertension qui peut guérir, quand on opère cet enfant, et
on a corrigé l'obstacle qui était là, l'enfant retrouve sa tension normale, il n'aura plus à prendre des médicaments comme chez les sujets âgés qui est obligé de prendre les médicaments tous les jours.
Bon, c'était là l'essentiel des questions, docteur Jean-Laurent Tacombe. Nous vous remercions d'avoir été notre invité pour parler de cette question de l'hypertension artérielle, cause mode de prévention. Nous rappelons que vous êtes cardiologue à la clinique Galima. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et merci à Radio Capi.